Oui, Père, on est reconnaissant en fait de cette opportunité que tu nous donnes d'être ensemble pour ce jour particulier où nous voulons faire aussi notre rentrée d'église, dire que tu fais partie de nos plannings, tu fais partie de nos priorités, tu fais partie de nos pensées. Et je te prie, s'il te plaît, que tu puisses encore nous parler ce matin et que tu puisses vraiment nous donner de vivre et d'expérimenter ta grâce, ta paix dans notre quotidien, que nous sachions sur qui nous pouvons compter. Je te prie, s'il te plaît, aussi peut-être pour des amis qui viendraient pour la première fois, qui ne te connaissent pas. Je te prie, s'il te plaît, que tu puisses te révéler à eux. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir votre livre dans le livre aux Éphésiens. Vous le trouverez dans la deuxième partie de votre Bible. Vous verrez les évangiles, Matthieu, Luc, Marc, Jean. Après, vous arriverez vers Corinthiens et Galates et vous arriverez à Éphésiens. Et on prendra aujourd'hui uniquement les deux premiers versets de cette lettre. C'est une nouvelle série qu'on va entreprendre ensemble sur le livre des Éphésiens. C'est un livre qui a encouragé beaucoup de chrétiens au travers des siècles parce qu'il nous rappelle qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Et aujourd'hui, on va avoir une prédication qui est un peu différente de celle qu'on a d'habitude, mais on va essayer de s'arrêter finalement sur chacun de ces mots et de savoir qu'est-ce que ça veut dire d'être béni par Dieu, de sa grâce, de sa paix. Qui est Paul? Qu'est-ce qu'un apôtre? Qu'est-ce que la volonté de Dieu? On va survoler un peu tout ça pour nous donner un peu à tous des éléments communs pour comprendre la suite de cette épître. Mais j'espère aussi que ça puisse vraiment nous encourager à découvrir la Bible en profondeur. Alors bien sûr, c'est un peu difficile de pouvoir aller personnellement dans cette profondeur-là, de pouvoir relier les textes de l'Écriture entre elles, mais ça n'a pas pour objectif de donner quelque chose d'insondable, mais justement de donner des repères qui mettraient peut-être parfois plusieurs années à venir, même avec une lecture régulière de la Bible. Là, l'idée, c'est de mettre des connecteurs entre ces différents points pour mieux comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu. Et je voulais vous poser une première question. Tu peux revenir à la photo. Est-ce que vous connaissez Henri Dunant? Ah, c'est qui? Ah, oui, c'est le créateur de la Croix-Rouge, un des fondateurs, et c'est aussi le premier prix Nobel de la paix, en 1901. Il est fondateur de la Croix-Rouge et il a l'idée de créer la Croix-Rouge parce qu'il voit des blessés de guerre qui sont livrés à eux-mêmes. Et il est touché de compassion pour eux en voyant cela. Et il se dit, mais en fait, il faut les aider, peu importe leur nationalité, peu importe qui ils sont. Il faut leur apporter de l'amour. Il faut les aider dans leur situation. Et aujourd'hui, cet organisme a grandi et il intervient dans plus d'une centaine de pays, dont l'Afghanistan, l'Irak, Haïti. Plus de 20 000 personnes opèrent dans ces différents pays. Et savez-vous que Henri Dunant était chrétien, protestant, évangélique. Il a même été un des fondateurs d'une union internationale pour les jeunes gens chrétiens, qui aujourd'hui regroupe plus de 15 000 associations. C'était quelqu'un qui était, en tout cas, inspiré par Dieu, touché par la compassion pour les blessés de guerre, mais aussi pour les jeunes gens. Et personnellement, ça m'a inspiré de voir combien d'expérimenter la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu dans sa vie, ça se manifeste encore aujourd'hui, et y compris à l'international. Et finalement, un homme qui a été touché par Dieu, qui a été ému de compassion pour ses prochains, ça a un impact énorme encore aujourd'hui dans notre société, où il y a même la Croix-Rouge ici, sur Morée-Loin et Orven. Dieu peut utiliser chacun, même avec les petits rêves qu'on a, peut-être même avec juste un matin, tu es touché par quelque chose, Dieu peut se servir de toi. Et c'est ce qu'on va découvrir justement dans ce passage de la Bible. Donc Éphésiens chapitre 1, et on va simplement lire les deux premiers versets. « de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Et on va creuser chacun de ces mots et on va commencer par Paul, de la part de Paul. Et on va découvrir d'où vient l'autorité de la Bible. L'autorité de la Bible est donnée par Jésus-Christ. Paul commence à peu près toutes ses lettres de la même façon et c'est intéressant du coup de comprendre. Mais qui est Paul? Pourquoi s'appelle-t-il Paul? J'ai un scoop pour vous. Lorsque j'étais étudiant, on m'appelait Bill. Je ne l'ai pas dit à grand monde, mais on m'appelait Bill. Lors des cours d'anglais, la prof trouvait que m'appeler Sylvain, ça ne collait pas du tout quand on parlait anglais. Donc elle m'a dit, tu t'appelleras Bill. Donc je me suis appelé Bill pendant 2 ans. Et il faut savoir que Paul, lui, s'appelait Saul avant de s'appeler Paul. Et pour sans doute des raisons un peu similaires, Saul est devenu Paul. Je m'explique. Saul est le nom juif de Paul. J'essaie de bien prononcer pour qu'on entende la différence. C'est ce Saul qui persécutait l'église qui était naissante, qu'on a découvert dans le livre des Actes il y a quelques semaines maintenant. Il dit lui-même qu'il a été très fier, qu'il avait été très fier d'avoir été zélé dans la religion juive. Et c'est là qu'il faut bien comprendre la chose, et comprendre d'où vient la paix qui va venir. Le fait que des juifs deviennent disciples de Jésus-Christ rendait Saul complètement fou. Comment est-ce qu'il pouvait renier tout cet héritage ancestral depuis des siècles? Pour se garder pur, Saul faisait attention de ne pas s'associer aux païens. Finalement, les païens, ben, c'est simplement tous les autres peuples à part les juifs. Pour cela, il ne pouvait même pas manger avec eux. Il ne pouvait même pas rentrer dans le même bâtiment que des païens. Les païens ne pouvaient pas rentrer dans le temple. Imaginez le mur de séparation qu'il y avait entre tous les peuples et Saul. Mais Saul a fait une rencontre qui a bouleversé toute sa vie. Et il en parle lui-même et il donne ce témoignage et on va le laisser parler. C'est en Actes 22, les versets 5 à 21, ça va s'afficher. Je ne lirai pas à chaque fois toutes les références, mais elles s'afficheront. Alors, on va survoler pas mal de passages de la Bible ce matin. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. C'est Paul qui parle. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me suis rendu afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et les faire punir, donc les premiers chrétiens. Comme j'étais en chemin et que je m'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis « Que ferai-je, Seigneur ?» Et là, le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Paul, lui, savait qu'est-ce qu'il voulait faire, mais là, c'est Jésus qui est en train de lui dire qu'est-ce qu'il devra faire. « Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi, ils me prennent par la main et j'arrivais à Damas. » Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi et de qui tous les juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. » Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et je dis, « Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et lorsque l'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, en gardant leurs vêtements de ceux qui le faisaient mourir. » Alors il me dit, « Va, je t'enverrai au loin vers les nations. » Quelle rencontre! Cette rencontre avec Jésus ressuscité et glorieux va bouleverser toute la vie de Paul. Il est retourné comme une crêpe. C'est ce qu'on vit lorsqu'on vit cette nouvelle vie. Quelque chose de nouveau démarre. Au lieu de l'hostilité, c'est l'amour de Dieu qui prend sa place. Et cet amour, il est pour tous les hommes, peu importe qui ils sont, peu importe ce qu'ils ont fait. Et Paul est envoyé par Christ vers les nations païennes, afin que le plus grand nombre d'entre nous entende la bonne nouvelle de Jésus-Christ, y compris des gouverneurs, des rois, des infirmes, des estropiés, des pauvres et des personnes qui vivaient dans la débauche. Pour cela, Paul est obligé de s'adapter pour se faire tous à tous, y compris de changer de nom. Imaginez juste le grand chamboulement qu'il y a dans la vie de Paul. Tout ce qui était important pour lui, finalement, il se rend compte que c'est rien, que ça vaut rien. Et il explique justement ce qu'il a ressenti à l'intérieur de lui après cette rencontre avec Jésus. Paul, il dit, je rejette finalement tous ces gains qui sont liés à la fausse religiosité. C'est le Philippien. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Mais pas sa confiance parce que tu es riche, parce que tu es bien instruit. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux encore plus. J'étais circoncis le huitième jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Et en ce qui concerne la foi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient... Non avec ma justice, non celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection, la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Paul vit une transformation en profondeur. Les choses qui pour lui étaient importantes jusqu'à présent, le regard des autres, le fait d'être dans le bon club, tout ça, il le considère désormais comme des ordures, parce qu'il regarde à Christ. Qu'est-ce que Christ a pour lui? C'est bien meilleur, c'est ce qu'on va découvrir dans le livre des Éphésiens. C'est ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Il veut t'amener à trouver ton identité en lui. Paul ne s'identifie plus au fait d'être dans le bon groupe religieux, ni avec ses connaissances intellectuel, ni avec ses mérites, ni avec son zèle pour Dieu, ni même avec son zèle pour Dieu. Et Paul s'identifie maintenant comme étant appelé par Jésus-Christ. Jésus-Christ t'appelle. Paul est appelé par Dieu pour être enfant de Dieu, comme toi tu es appelé à être enfant de Dieu. Mais Paul, il a encore un appel particulier qu'on a entendu. Il est appelé de manière toute particulière par Dieu pour son plan de salut pour toute l'humanité. Qui aurait parié sur Paul ? Persécuter l'Église et finalement être choisi par Dieu pour apporter le salut, le message de la bonne nouvelle. Qui aurait parié sur des pêcheurs au bord d'un lac ? C'est Jésus qui l'a fait. Et ça a bouleversé toute l'humanité. Bien que Paul ait persécuté l'Église, cela ne l'a pas empêché de servir Dieu et de bâtir son Église. Alors peut-être ce matin, tu te dis, ouais, mais en fait, moi, j'ai mon passé. Qu'est-ce que j'en fais ? J'ai fait des choses qui étaient peut-être horribles. Je me suis vraiment planté dans ma jeunesse. J'ai peut-être même persécuté quelqu'un de ma famille qui croit en Dieu. Mais ce matin, j'ai envie de te dire, mais tu es accueilli par Jésus, les bras ouverts. Tu es accueilli par une église avec les bras ouverts. Ton identité comprend bien cela et n'est pas dans ce que tu as fait de mal, et n'est pas dans ce que tu as fait de bien, ni dans ce que tu fais aujourd'hui pour Dieu, ni dans le zèle que tu as aujourd'hui pour Dieu. Ton identité, elle est dans ce que Jésus, il a fait pour toi. Ce n'est pas ce que toi, tu fais pour Jésus qui compte, mais ce que Jésus a fait pour toi. C'est vraiment peut-être un appel pour quelqu'un. Ne passe pas à côté ce matin. Tu n'es pas trop grand ni trop petit pour rentrer dans le royaume de Dieu. On va se poser la question, mais que veut dire être apôtre ? En Marc 3, il monta ensuite sur la montagne, donc Jésus, et il appelait ceux qu'il voulait et ils vinrent vers lui. Alors déjà, je trouve que ce qui est remarquable, c'est que d'habitude on dit, mais qui veut servir Dieu ? Mais en fait, là, c'est Jésus qui dit, non, mais c'est toi que je veux. Et peut-être il te le dit aussi, et tu es peut-être en lutte avec ça, c'est toi que Jésus veut pour son service. Il en établit 12, auxquels il donna le nom d'apôtre, pour qu'ils soient avec lui, donc pour qu'ils voient ce que Jésus fait, et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. C'est Jésus lui-même qui envoie, qui équipe et qui donne sa puissance. Ce n'est pas la puissance des personnes, ce n'est pas la puissance d'un rituel. C'est Jésus lui-même qui intervient au travers de ce qu'il envoie. Un apôtre, s'il y a une chose à retenir, ce n'est pas ce qu'ils font qui est important, c'est le fait qu'ils soient envoyés. Dans le Nouveau Testament, c'est une sorte de terme officiel, choisi par Jésus et envoyé. Et ils sont envoyés pour bâtir l'Église de Jésus-Christ, sur Jésus-Christ, sur l'Écriture. Et c'est pour ça que c'est eux qui vont communiquer la révélation finale de la parole de Dieu. C'est l'enseignement que Jésus lui-même leur a donné. Et les apôtres nous ont laissé ce patrimoine. Alors, dans un premier temps, c'était oral, quand ils passaient d'une église à l'autre, mais après, ils ont écrit des lettres aux églises. Et aujourd'hui, nous avons tout un ensemble de lettres qui sont là et qui nous suffisent à savoir ce que Dieu veut pour moi, pour ma famille, pour mon église et mes voisins. Et pour cela, les apôtres ont pour tâche de prêcher, d'enseigner la parole de Dieu, de faire des miracles et de former et d'établir des dirigeants d'église. Alors, une question qui peut se poser aujourd'hui, mais aujourd'hui, y a-t-il encore des apôtres ? Je dirais non, pas comme les 12 et Paul. Dans le sens où la révélation de Dieu, elle a été donnée, elle est complète, elle est suffisante. Il n'y a plus personne qui a besoin d'écrire un livre en plus dans la Bible. Tout ce que Dieu nous a donné est là. Et oui, dans un certain sens, par des personnes que Jésus envoie et qui sont pionnières. Mais ça n'a rien à voir avec les 12 et Paul. C'est des personnes qui vont aller dans des domaines, dans des lieux ou vers des personnes où personne n'est allé avant eux et Jésus les envoie. Parfois, ça peut être dans une région où on n'a jamais entendu le nom de Jésus. On a entendu Coca, mais jamais Jésus. Et Jésus envoie des personnes là-bas. Dans la fondation de nouvelles églises, de nouvelles œuvres, dans l'assistance à un groupe d'églises pour les structurer, pour les aider à grandir. Mais on ne peut pas comparer cela aux apôtres du premier siècle qui ont finalement été là, spécialement choisis par Jésus pour être dans le plan de salut pour toute l'humanité. Et c'est là où je pense à quelque chose qui est important. Paul n'est pas apôtre selon une volonté humaine. C'est pas Paul qui a dit « moi j'y vais » ou quelqu'un qui l'a dit, qui a donné un coup sur l'épaule « allez vas-y Paul, ça serait bien ». Non. C'est pas par son éducation, parce qu'il était très instruit, non. Ni parce qu'il était intelligent et il raisonnait super vite, il comprenait rapidement les choses, non. Avec les yeux humains, aussi avec ce que Paul avait fait à l'Église, on n'aurait sans doute pas misé pour lui, on aurait dit « bon potentiel, mais bon, t'as quand même un peu des casseroles ». Et Paul lui-même, il reste marqué par cette période obscure de sa vie. On le voit à plusieurs moments qu'il regrette cette partie de sa vie. Il se considère comme le plus grand des pécheurs et aussi, il n'hésite pas à se présenter parfois comme le plus petit des apôtres parce qu'il a été choisi un peu après. Et je pense que pour nous, c'est intéressant de pouvoir réfléchir à ça. C'est que lorsqu'on choisit des responsables dans une église, on ne les choisit pas parce qu'ils ont un bac plus 5. On les choisit parce qu'ils aiment Jésus et qu'ils répondent à son appel, qu'ils se remettent en question, qu'ils soient attentifs qu'on voit en eux l'amour pour Jésus, qu'on voit en eux l'amour pour les personnes autour d'eux, qu'ils soient amoureux de la parole de Dieu. Paul est apôtre par la volonté de Jésus-Christ. Pour être apôtre, il faut avoir entendu l'enseignement de Jésus et vu Jésus ressuscité, pour résumer un peu. Et Paul a vécu cela lorsque Jésus s'est révélé personnellement à lui et de manière surnaturelle. Et ça pose cette question, mais qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu ? On rentrera dedans un peu plus tard dans le livre des Éphésiens, mais il y a une volonté qui est marquée, c'est la volonté de Dieu de sauver tous les hommes. Pour que vous compreniez ça, dans Jacques, il est dit cela. D'ailleurs, c'est une expression que vous connaissez, vous pouvez la citer après. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville et nous y passerons une année, nous trafiquerons, donc on fera du commerce, hein, ils ne vont pas faire de la vente de drogue, et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Quelle est l'expression ? Oui, c'est ça. Et c'est vrai que parfois on dit, si Dieu le veut, je viendrai au culte demain. Mais on va le voir après, Dieu veut que tu viennes au culte demain. Là où tu peux te poser la question, c'est est-ce que Dieu il veut que je passe mon temps à tel et tel endroit ? Est-ce qu'il veut que est-ce que c'est un acte d'adoration ce que je fais dans mes loisirs, dans mon travail, ce genre de choses ? Ça, c'est des bonnes questions à se poser finalement. Mais comprenons, on va regarder maintenant ce que Dieu veut dans 1 Timothée. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés, que tu sois sauvé, que tes amis, que ta famille soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité devant Christ. Je ne mens pas, chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. Ce que Dieu désire, c'est que tous le rencontrent, que tous vivent une relation personnelle avec lui et que tous soient dans la maison du Père pour l'éternité. C'est ça la volonté générale de Dieu. Parfois, on met plus d'énergie à se poser la question, est-ce que je dois devenir chirurgien ou pompier ? Mais en fait, ce qui devrait être la trame de fond, c'est plutôt comment est-ce que dans ce que je ferai comme métier, je pourrais adorer Dieu. Est-ce que je dois choisir un homme aux yeux bleus ou aux yeux verts pour se marier ? Non, regarde, est-ce que c'est avec quelqu'un où tu pourras adorer Dieu ? La volonté de Dieu est aussi pour notre sanctification. Parce qu'une fois qu'on a démarré la vie chrétienne, parfois on se dit, c'est bon, c'est plié, j'ai accepté Jésus. Peut-être que je me suis fait baptiser et c'est bon. Mais non, 1 Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Ce que Dieu veut, c'est notre progression dans la sainteté, que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, et ainsi de suite. Ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on grandisse, qu'on lui ressemble de plus en plus. C'est pour ça qu'on se réunit en église, c'est pour ça qu'on veut faire des groupes de croissance, c'est pour ça qu'on veut connaître notre identité en Christ, être libéré de ce qui nous retient, de ne pas vivre comme un chrétien, de ne pas ressembler à Christ. C'est ça l'objectif de notre vie une fois qu'on a commencé à vivre pour Dieu. C'est pour ça qu'on met autant d'énergie semaine après semaine à essayer de se retrouver ensemble pour adorer Dieu et lui ressembler davantage. Alors vous me direz, bon, c'est peut-être Paul quand même, il est venu après les autres, peut-être c'est lui, il avait des idées, c'est peut-être parfois, comme on dit, bon, c'est un pasteur, il a un peu ses idées, il tient, c'est son dada de parler de telle et telle chose. Peut-être vous direz ça de Paul, mais qu'est-ce que dit Pierre ? Pierre, c'est Jésus qui l'a choisi, il a dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, il dit cela. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Si Dieu ne patientait pas, nous ne pourrions pas être sauvés. Notre bien-aimé frère Paul, vous, l'a aussi écrit conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font avec des autres écritures, pour leur propre ruine. Bien-aimé, vous voilà avertis, tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Pierre reconnaît que ce que Paul dit est vrai. Que ce que Paul dit vient de Jésus, que ce que Paul dit est bon pour nous, il est bon pour toi, bon pour moi, bon pour notre Église. Et parfois, j'en discutais encore avec Yvis il y a quelques semaines, mais parfois, on est choqué par la parole de Dieu. Elle nous bouscule dans nos retranchements, dans peut-être parfois des choses où on est un peu mal à l'aise, mais c'est Dieu qui est en train de nous parler, qui est en train de nous dire « mais je t'attends pour faire un pas de plus ». Et ce n'est pas pour ça qu'il faut taper sur la personne qui t'a dit quelque chose ou sur ce qui est enseigné ou autre. C'est peut-être Dieu qui est en train de te parler. Et c'est là où il faut avoir le discernement. Qu'est-ce qui est pour moi ? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi ? Comment je peux faire un pas de plus ? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que toute la Bible est destinée à un seul objectif de Timothée. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu et la femme de Dieu soient formés et équipés pour toute bonne œuvre. La volonté de Dieu est de se révéler aux hommes par sa parole, et cette parole est consignée par des auteurs inspirés par le Saint-Esprit et choisis par Dieu. Le message de la Bible, il est intemporel, et parfois il vient à l'encontre de peut-être des idées, des choses préconçues qu'on a, mais c'est la parole de Dieu qui a la vérité, c'est pas les idées qu'on a. Pourquoi ça ne change pas ? C'est parce que Dieu, il est éternel. C'est pour ça que les hommes qui ont entendu l'évangile il y a 2000 ans, ça parle de la même façon à notre cœur aujourd'hui. On a le même cœur tortueux, on a tous le même besoin de Jésus. En Éphésiens 2, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, mais vous êtes au contraire concitoyens, des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Jésus-Christ lui-même en étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Nous avons besoin d'avoir la même parole de Dieu pour qu'il n'y ait plus de division entre ceux qui ont connu Pierre, ceux qui ont connu Paul, ceux qui sont de telle ou telle église qui nous rejoignent. Ce qui est important, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est avec ça que est enlevé tout ce qui peut être des obstacles et des murs entre nous. Dieu veut construire avec nous. Il ne veut pas cloisonner entre nous. Dieu a accompli la promesse de créer un nouveau peuple sans barrière de langue, de culture, ni ethnique, ni intellectuelle, ni sociale. Dieu, il a un projet pour notre Église. C'est un projet d'amour, un projet où on va tous dans le même sens. La vie de Paul témoigne justement de cette puissance de transformation que Dieu opère. Et Dieu a par Paul, nous a intégrés, nous qui étions non-juifs, à la même famille, la famille de Dieu. Et lorsque Paul s'adresse aux Éphésiens, il leur dit de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, selon la volonté de Dieu. Il nous parle non de sa propre autorité ou de sa propre volonté, mais de la part de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Sauver, sanctifier, amener à la sainteté. L'autorité de la Bible est donnée par Jésus-Christ. Je crois qu'on fera le reste de la prédication la prochaine fois. Mais je voulais vraiment nous encourager à peut-être ce matin saisir à qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Est-ce que c'est ma volonté qui est importante? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce qu'on est capable ce matin, ou dans les jours après jour, à se remettre en question lorsque Dieu nous parle? Je me la pose à moi personnellement. Hein. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je considère plus important, qui est un obstacle finalement, qui m'empêcherait de pouvoir parler de Jésus à un ami, un voisin? Quel est cet obstacle? Est-ce que c'est mon orgueil? Parce que je ne sais pas comment l'autre il va me juger. Est-ce que c'est peut-être parce que je n'ai pas assez de temps pour lui? Entre guillemets, pas assez d'amour. Hein. La même chose dans l'église. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre du temps avec un frère, une sœur, une famille? Participer aussi à ma croissance spirituelle? Et je propose juste qu'on puisse prendre 2 minutes pour se poser ces questions-là. Et se dire aussi, pour quelqu'un qui est là, qui se dit, mais ouais, c'est exigeant. Oui, c'est exigeant, mais tu ne vas pas avec tes propres forces. Paul, lui, il s'est fait ramasser complètement. Mais c'est Jésus lui-même qui lui a donné des forces nouvelles, un amour nouveau, des convictions nouvelles, un zèle nouveau. Je propose juste qu'on puisse s'examiner personnellement. Comment je peux juste faire un pas de plus avec Jésus? Comment je peux progresser dans ma sainteté? Comment est-ce que je peux enlever ce qui fait que peut-être depuis des semaines ou des mois ou des années, ben je stagne. Peut-être on ne sent plus cet amour de Dieu, on ne sent peut-être plus cette présence qui est aussi importante. Qu'est-ce qu'est cet obstacle? Oui Père, je te remercie parce que c'est toi qui sais sonder nos cœurs mieux que quiconque. C'est toi qui sais nous trouver dans nos retranchements lorsque parfois on se met en position de sécurité, qu'on ne veut plus avancer. C'est toi qui viens à notre rencontre et qui viens nous tendre la main. Je te prie, s'il te plaît, que ce matin, justement, tu puisses accomplir quelque chose de grand dans nos cœurs, dans nos vies. Ça puisse se voir dans notre quotidien, qu'on puisse, comme Paul, être conscient qu'il y a une transformation profonde qui s'est produite en nous au moment où on a abdiqué devant toi. Qu'on a arrêté de te dire, moi je voudrais faire ceci ou cela, mais qu'on s'est posé en te demandant, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, je te prie, s'il te plaît, vraiment, que tu puisses nous entraîner à être beaucoup plus prompt à te demander qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. À chercher dans ta parole ce qui est le plus important pour nous, ce que tu as de bon pour nous. C'est tellement bon de voir que tu veux nous donner cette paix, cette grâce, ce cadeau surnaturel et que parfois nous passons à côté. Je te prie, s'il te plaît, que ce matin, tu viennes sonder nos cœurs, nous amener à faire ce pas peut-être décisif pour certains de se dire maintenant, je veux vivre pour toi. Je veux m'engager pour toi. Peut-être un peu comme quand Ananias a dit à Paul, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Pourquoi est-ce que tu tardes? Peut-être Dieu te dit ça ce matin. Seigneur, je te prie que tu puisses nous parler, que tu puisses nous pousser, nous donner le courage de prendre position pour toi dans notre quotidien, dans notre vie d'église, dans notre relation avec toi, dans notre engagement avec toi. Je te prie peut-être pour quelqu'un qui repousse le baptême depuis longtemps. Je te prie, s'il te plaît, que tu lui donnes vraiment une conviction profonde. Seigneur, aide-nous chacun et chacune à faire un pas de plus pour vivre enfin cette vie formidable que tu as pour nous. Cette vie avec toi, cette vie dans l'église, cette vie dans la famille. Seigneur, on sait que c'est toi qui qui donne le meilleur, la grâce et la paix. Et que demander plus que ton amour, ta compassion, ta paix. Je te prie dans le nom de Jésus.